Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons pour le 89e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas?
Eh bien, on va parler d'une application permettant de trouver un artisan pour faire vos travaux comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profit. Et on va parler épargne et placement. On continuera avec Serge-Henri Saint-Michel, sociologue. Et nous allons faire un petit focus sur l'immobilier neuf à Blois.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Bernard Darniche, célèbre pilote automobile qu'on ne présente plus.
TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente
Sud Radio. Osez investir, la clé de la semaine.
Et cette semaine, Thomas, vous nous présentez une application pour trouver un professionnel qualifié pour vos travaux rapidement.
Absolument, Philippe. Qui dit travaux dit rechercher des professionnels. Vous souhaitez faire la peinture de votre salon ou installer une serrure, vous contactez un artisan et une fois le travail fini, vous vous rendez compte que celui-ci n'a pas été fait correctement, voire à un prix faramineux.
Du coup, vous avez repéré une application qui s'appelle Askandi, qui permet la mise en relation entre les particuliers et des professionnels certifiés et sélectionnés.
C'est absolument ça, Philippe. Il faut créer son compte sur l'application et faire sa demande en sélectionnant la prestation souhaitée. Il ne vous reste plus qu'à indiquer le lieu d'intervention, que ce soit pour nous ou un tiers, de décrire brièvement la nature des travaux souhaités, d'y déposer quelques photos si nécessaire et de sélectionner le moment d'intervention. Ensuite, des artisans certifiés et géolocalisés en temps réel vous proposent un devis et vous contactent par téléphone pour intervenir rapidement. Le numéro de téléphone, le nombre d'interventions réalisées et la note de l'artisan vous sont également communiqués. Après l'intervention, vous pouvez évaluer le professionnel.
Et comment paye-t-on la prestation, Thomas?
Eh bien, c'est l'air de la guerre. Absolument, le paiement se fait directement via l'application. Une fois l'intervention terminée, vous ne payez aucun frais de déplacement, la réalisation des travaux est assurée et le site se porte garant en cas de retard et de problème.
Sud Radio, Osez investir.
Notre invité cette semaine est Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profit, société de conseil en gestion de patrimoine en ligne spécialisée en assurance vie. Et vous comptez 58 000 clients pour un encours de 3 milliards d'euros.
Oui Philippe, nous recevons Stéphane Cohen pour parler assurance vie. Bonjour Stéphane Cohen.
Bonjour.
Stéphane Cohen, la Banque de France estime que le surplus d'épargne pour 2021 serait de 55 milliards d'euros. Il devient de fait urgent de placer ces économies et non de les laisser sur les livrets réglementés comme ce fut le cas en 2020 selon vous.
Absolument. C'est vrai qu'en 2020, on parlait de 110 milliards d'euros de surplus d'épargne des Français. Alors naturellement, les Français représentent un peuple d'épargnants, quand on compare par rapport à d'autres pays dans le monde. Mais cette épargne a été essentiellement placée sur de l'épargne de précaution, sur des placements très court terme, où ils sont restés tout simplement sur les comptes bancaires. Et là, aujourd'hui, quand on garde 2 mois, 3 mois de salaire d'avance, pour le reste, il faut aller chercher un placement qui va rapporter un petit peu plus.
Alors, vous considérez que l'année qui vient de s'écouler, l'année et demie même de confinement Covid, a fait qu'on n'a pas tellement pu dépenser de l'argent comme on l'aurait souhaité, plus de voyages, plus de vraie consommation, ça a gonflé l'épargne.
Ah, complètement. Il y a eu une épargne subie, c'est ce qu'on dit. On a moins consommé, même si on a plus consommé sur Internet. Oui. Mais cette épargne subie, c'est une vraie réalité pour 2020. Et d'ailleurs, les placements, depuis le début de l'année, sont extrêmement importants en France en 2021.
Vers quel type de placement faut-il s'orienter aujourd'hui? C'est quoi les bons placements?
Alors, un bon placement, c'est un placement qui va répondre à la fois à son profil investisseur, c'est-à-dire la version risque, est-ce que j'ai envie de prendre des risques ou pas. Et un bon placement, c'est un placement qui va répondre aussi à une situation familiale et patrimoniale. Et un bon placement, c'est un placement qui va vraiment répondre à un projet. Mon épargne, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux en faire? C'est pour financer les études des enfants, c'est pour préparer la retraite, c'est pour transmettre après mon décès. Donc, il faut bien analyser le projet qu'on peut avoir et vraiment placer son argent par rapport à ce projet. Et donc là, il y a une dimension d'horizon de placement qu'il faut prendre en compte également. C'est-à-dire, je vais placer pour 2 ans, je vais placer pour 5 ans, je vais placer pour toute une vie. Et c'est vrai que nous avons une particularité, on propose beaucoup de contrats d'assurance vie. Et moi, je dis qu'un contrat d'assurance vie, finalement, c'est un compagnon pour la vie. Il faut l'ouvrir relativement tôt. Aujourd'hui, il y a des contrats qu'on peut ouvrir vraiment avec des sommes modestes quand on est un jeune actif. Et le contrat d'assurance vie, eh bien, il va être à tous les moments importants de la vie, quand on a besoin d'argent ou quand on veut placer.
Oui, parce que votre conseil, c'est qu'il faut commencer très tôt.
Ah oui, absolument.
Dès qu'on commence à travailler concrètement.
Ah oui, même avant.
Même avant, quand on est étudiant.
C'est-à-dire, il y a des parents qui ouvrent des contrats d'assurance vie pour leurs enfants, même à la naissance, ça peut être aussi.
Ah voilà. Oui.
Absolument. Non, mais c'est une réalité. Hein.
Oui, ça change. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'assurance vie est toujours un bon placement pour vous?
Ah oui, complètement. En France, l'assurance vie, c'est vrai, est le placement préféré des Français. Les Français ont raison, c'est un bon placement. D'abord parce qu'il y a des avantages fiscaux et successoraux quand on est dans un schéma de transmission. Donc ça reste un placement où on a, si vous voulez, cette dimension fiscale. Et ça, c'est important. Et ensuite, l'assurance vie a une telle diversité au niveau de ce qu'il peut offrir en termes de typologie de placement qu'on peut vraiment répondre à tous les cas de figure et à tous les profils d'investisseurs. Ça peut répondre à la personne qui veut vraiment venir sur les marchés financiers, parce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un contrat assurance vie des actions, des vrais titres, ce qu'on appelle des titres vifs, c'est-à-dire des actions, des L'Oréal, des Michelin, des Amazon. Et on peut aussi avoir un placement très sécuritaire où on ne souhaite absolument pas venir sur une prise de risque démesurée.
Alors, j'ai souhaité vous recevoir ce matin parce que vous êtes une professionnelle reconnue dans votre domaine et aussi vous êtes présidente d'Altaprofi. Alors, on ne parle pas souvent des sociétés de nos invités, mais dans votre cas, je voudrais faire peut-être une façon de faire différente. C'est-à-dire qu'Altaprofi est une société de e-courtage. Et moi, la question que je me pose et que je vous pose et que nos auditeurs vont vous écouter avec attention, c'est est-ce que dorénavant, la gestion de patrimoine va principalement s'opérer par Internet.
Alors,
on va changer nos habitudes là-dessus ?
On a déjà des habitudes qui évoluent, qui se transforment. Ce qui est intéressant avec Internet, moi qui fais ce métier depuis très très longtemps, ce que je trouve passionnant avec Internet, c'est l'accès à l'information. Et quand on parle de placement financier, c'est absolument fondamental. Il faut avoir accès à cette information, pouvoir consulter à tout moment où en est mon placement financier, si on le souhaite. Si on ne le souhaite pas, ben on sait qu'on pourra le faire. Et sur Internet, c'est ce que ça apporte, avec une information en temps réel de l'évolution du placement. Ensuite, sur Internet, on essaye d'apporter du décryptage, on essaye de vulgariser le placement, on essaye de ne pas parler avec un jargon d'expert ou de professionnel, mais essayer de bien faire comprendre. Et ensuite, sur Internet, eh bien, c'est la consultation, c'est la possibilité d'interagir sur son placement financier, récupérer son argent quand on en a besoin, en mettre des versements en plus quand on le souhaite, souscrire directement sur Internet, et tout ça avec la signature électronique, donc ça, c'est tous les moyens technologiques d'aujourd'hui. Et enfin, sur Internet, comme on a une forme d'autonomie en tant qu'internaute dans son placement, eh bien, on arrive à avoir sur Internet des produits qui sont très très peu coûteux.
Donc, simplification de la démarche. Merci Stéphane Cohen et je rappelle que vous êtes la présidente d'Altaprofi.
Sud Radio, osez investir.
Serge-Henri Saint-Michel, vous êtes sociologue et vous étudiez les comportements des Français dans leur consommation et entre autres en immobilier. Alors aujourd'hui, Serge-Henri, vous allez nous parler du logement idéal suite à la pandémie Covid-19.
C'était avant, le confinement était un espace clos et heureusement, les Français coincés chez eux disposaient de quelques échappatoires et de quelques rêves, comme de pouvoir penser à leur vie d'après dans un autre, avec des guillemets, dans un autre logement. Alors, il y a eu une kyrielle d'études qui ont été réalisées depuis l'an dernier, avant le départ de Thomas Pesquet, c'est important, qui permettent de tracer le profil du logement idéal post-Covid, qui s'articule autour de la recherche de l'espace.
Forcément.
Alors, le Français recherche plus d'espace, avec une pièce en plus pour disposer d'une chambre pour chaque enfant, une pièce en plus pour installer un coin bureau, plus d'espace pour du rangement, et il aimerait, surtout s'il est jeune, même plus de cuisine ouverte.
Alors, est-il aussi attiré par les espaces extérieurs ?
Ah oui, bien sûr, avec des espaces comme une terrasse, un balcon, un jardin. Mais en fait, Cette conception du logement idéal ne déménage pas, si vous me permettez cette expression, Thomas. Merci. Parce que 75% des Français sont satisfaits de leur logement. Et à l'issue du confinement, 20% auraient l'intention de déménager. Et rappelons que chaque année, 16% des Français déménagent. L'impact donc du confinement sur la mobilité immobilière est plutôt faible. Alors en attendant de pouvoir accéder à l'idéal, le Français bricole, aménage ses espaces, abat des cloisons, construit des placards, ouvre sa cuisine, va chercher la lumière et guette le logement de ses rêves. Car oui, il est là, au bout du tunnel.
Merci Serge-Henri.
ImoStim, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec Norbert Fanchon, président du directeur du groupe Gambetta, promoteur immobilier dans le neuf. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Blois, une ville de 46 000 habitants dans la région Centre-Val de Loire.
Bonjour Norbert Fanchon.
Bonjour Thomas.
Comment se porte le marché du neuf sur Blois et à quelle est sa tendance actuelle, Norbert ?
Bien, le marché du neuf à Blois est un marché confidentiel, puisqu'en général, c'est 50 à 100 ventes par an, mais c'est conforme à une ville de 46 000 habitants, parce que c'est une démographie plutôt raisonnable et un marché de l'ancien relativement dynamique, qui fait que le neuf ne se développe pas aujourd'hui comme il se développe dans la plupart des métropoles en France.
Alors, si je vais au-delà de la situation de chacun, vers quel type de placement devrais-je m'orienter si je voulais aller sur votre ville ?
Eh bien, en continuité avec l'intervenant précédent, il faut se placer à Blois, comme dans beaucoup de villes en France, des villes de 50 000 habitants, 70 000 habitants, dans un immobilier post-Covid et imaginer une transhumance des Français, des métropoles vers ces villes moyennes. Et donc suivre avec beaucoup d'attention le marché du neuf et de l'ancien à Blois. Et en neuf, effectivement, ça sera important d'avoir des espaces extérieurs, peut-être des jardins, et puis aller chercher l'exposition, le sud et l'ouest, plutôt que le nord et l'est, parce qu'on va chercher la lumière. Je suis en phase totale avec l'intervenant précédent.
Merci Norbert Fanchon.
Restez avec nous, on revient dans un instant dans Osez Investir le Club avec Bernard Darniche, pilote français de rallye automobile, pour parler de sa carrière et d'investissement.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet.
Nous vous retrouvons pour le 89e numéro d'Osez Investir l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ?
Eh bien, on va parler d'une application permettant de trouver un artisan pour faire vos travaux comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profit, et on va parler épargne et placement. On continuera avec Serge-Henri Saint-Michel, sociologue, et nous allons faire un petit focus sur l'immobilier neuf à Blois.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Bernard Darniche, célèbre pilote automobile qu'on ne présente plus.
TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Et cette semaine, Thomas, vous nous présentez une application pour trouver un professionnel qualifié pour vos travaux rapidement.
Absolument, Philippe. Qui dit travaux dit rechercher des professionnels. Vous souhaitez faire la peinture de votre salon ou installer une serrure. Vous contactez un artisan et une fois le travail fini, vous vous rendez compte que celui-ci n'a pas été fait correctement, voire à un prix faramineux.
Du coup, vous avez repéré une application qui s'appelle Askandi qui permet la mise en relation entre les particuliers et des professionnels certifiés et sélectionnés.
Bah, c'est absolument ça, Philippe. Il faut créer son compte sur l'application et faire sa demande en sélectionnant la prestation souhaitée. Il ne vous reste plus qu'à indiquer le lieu d'intervention, que ce soit pour nous ou un tiers, de décrire brièvement la nature des travaux souhaités, d'y déposer quelques photos si nécessaire et de sélectionner le moment d'intervention. Ensuite, des artisans certifiés et géolocalisés en temps réel vous proposent un devis et vous contactent par téléphone pour intervenir rapidement. Le numéro de téléphone, le nombre d'interventions réalisées et la note de l'artisan vous sont également communiqués. Après l'intervention, vous pouvez évaluer le professionnel.
Et comment paye-t-on la prestation, Thomas ?
Eh bien,
c'est l'air de la guerre.
Absolument, le paiement se fait directement via l'application. Une fois l'intervention terminée, vous ne payez aucun frais de déplacement, la réalisation des travaux est assurée et le site se porte garant en cas de retard et de problème.
Sud Radio, Osez Investir.
Notre invitée cette semaine est Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profi, société de conseil en gestion de patrimoine en ligne spécialisée en assurance vie. Et vous comptez 58 000 clients pour un encours de 3 milliards d'euros.
Oui Philippe, nous recevons Stéphane Cohen pour parler assurance vie. Bonjour Stéphane Cohen.
Bonjour.
Stéphane Cohen, la Banque de France estime que le surplus d'épargne pour 2021 serait de 55 milliards d'euros. Il devient de fait urgent de placer ses économies et non de les laisser sur les livrets réglementés comme ce fut le cas en 2020 selon vous.
Absolument, c'est vrai qu'en 2020, on parlait de 110 milliards d'euros de surplus d'épargne des Français. Alors naturellement, les Français représentent un peuple d'épargnants, quand on compare par rapport à d'autres pays dans le monde. Mais cette épargne a été essentiellement placée sur de l'épargne de précaution, sur des placements très court terme, où ils sont restés tout simplement sur les comptes bancaires. Et là, aujourd'hui, quand on garde 2 mois, 3 mois de salaire d'avance, pour le reste, il faut aller chercher un placement qui va rapporter un petit peu plus.
Alors, vous considérez que l'année qui vient de s'écouler, l'année et demie même de confinement Covid, a fait qu'on n'a pas tellement pu dépenser de l'argent comme on l'aurait souhaité, plus de voyages, plus de vraie consommation, ça a gonflé l'épargne.
Ah, complètement. Il y a eu une épargne subie, hein, c'est ce qu'on dit. On a moins consommé, même si on a plus consommé sur Internet. Oui. Mais cette épargne subie, c'est une vraie réalité pour 2020. Et d'ailleurs, les placements, depuis le début de l'année, sont extrêmement importants en France en 2021.
Vers quel type de placement faut-il s'orienter aujourd'hui ? C'est quoi les bons placements ?
Alors, un bon placement, c'est un placement qui va répondre à la fois à son profil investisseur, c'est-à-dire l'aversion au risque, est-ce que j'ai envie de prendre des risques ou pas ? Et un bon placement, c'est un placement qui va répondre aussi à une situation familiale et patrimoniale. Et un bon placement, c'est un placement qui va vraiment répondre à un projet. Mon épargne, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux en faire ? C'est pour financer les études des enfants, c'est pour préparer la retraite, c'est pour transmettre après mon décès. Donc, il faut bien analyser le projet qu'on peut avoir et vraiment placer son argent par rapport à ce projet. Et donc là, il y a une dimension d'horizon de placement qu'il faut prendre en compte également. C'est-à-dire, je vais placer pour 2 ans, je vais placer pour 5 ans, je vais placer pour toute une vie. Et c'est vrai que nous avons une particularité, on propose beaucoup de contrats d'assurance-vie. Et moi, je dis qu'un contrat d'assurance-vie, finalement, c'est un compagnon pour la vie. Il faut l'ouvrir relativement tôt. Aujourd'hui, il y a des contrats qu'on peut ouvrir vraiment avec des sommes modestes quand on est un jeune actif. Et le contrat d'assurance-vie, eh bien, il va être à tous les moments importants de la vie, quand on a besoin d'argent ou quand on veut placer.
Oui, parce que votre conseil, c'est qu'il faut commencer très tôt.
Ah oui, absolument.
Dès qu'on commence à travailler, concrètement.
Ah oui, avant.
Même avant, quand on est étudiant.
C'est-à-dire, il y a des parents qui ouvrent des contrats d'assurance-vie pour leurs enfants, même à la naissance, ça peut être aussi...
Ah voilà, oui.
Absolument. Non, mais c'est une réalité. Hein,
oui, ça change. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'assurance-vie est toujours un bon placement pour vous ?
Ah oui, complètement. En France, l'assurance-vie, c'est vrai, est le placement préféré des Français. Les Français ont raison, c'est un bon placement. D'abord parce qu'il y a des avantages fiscaux et successoraux quand on est dans un schéma de transmission. Donc ça reste un placement où on a, si vous voulez, cette dimension fiscale. Et ça, c'est important. Et ensuite, l'assurance-vie a une telle diversité au niveau de ce qu'il peut offrir en termes de typologie de placement qu'on peut vraiment répondre à tous les cas de figure et à tous les profils investisseurs. Ça peut répondre à la personne qui veut vraiment venir sur les marchés financiers, parce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un contrat assurance-vie des actions, des vrais titres, ce qu'on appelle des titres vifs, c'est-à-dire des actions, des L'Oréal, des Michelin, des Amazon, et on peut aussi avoir un placement très sécuritaire où on ne souhaite absolument pas venir sur une prise de risque démesurée.
Alors, j'ai souhaité vous recevoir ce matin parce que vous êtes une professionnelle reconnue dans votre domaine et aussi vous êtes présidente d'Alta Profi. Alors, on ne parle pas souvent des sociétés de nos invités, mais dans votre cas, je voudrais faire peut-être une façon de faire différente. C'est-à-dire qu'Alta Profi est une société de e-courtage. Et moi, la question que je me pose et que je vous pose et que nos auditeurs vont vous écouter avec attention, c'est est-ce que dorénavant, la gestion de patrimoine va principalement s'opérer par Internet.
Alors,
on va changer nos habitudes là-dessus ?
On a déjà des habitudes qui évoluent, qui se transforment. Ce qui est intéressant avec Internet, moi qui fais ce métier depuis très très longtemps, ce que je trouve passionnant avec Internet, c'est l'accès à l'information Et quand on parle de placement financier, c'est absolument fondamental. Il faut avoir accès à cette information, pouvoir consulter à tout moment où en est mon placement financier, si on le souhaite. Si on ne le souhaite pas, ben on sait qu'on pourra le faire. Et sur Internet, c'est ce que ça apporte, avec une information en temps réel de l'évolution du placement. Ensuite, sur Internet, on essaye d'apporter du décryptage, on essaye de vulgariser le placement, on essaye de ne pas parler avec un jargon d'expert ou de professionnel, mais essayer de bien faire comprendre. Et ensuite, sur Internet, eh bien, c'est la consultation, c'est la possibilité d'interagir sur son placement financier, récupérer son argent quand on en a besoin, en mettre des versements en plus quand on le souhaite, souscrire directement sur Internet, et tout ça avec la signature électronique, donc ça avec c'est tous les moyens technologiques d'aujourd'hui. Et enfin sur Internet, comme on a une forme d'autonomie en tant qu'internaute dans son placement, eh bien on arrive à avoir sur Internet des produits qui sont très très peu coûteux.
Donc simplification de la démarche. Merci Stéphane Cohen et je rappelle que vous êtes la présidente d'Alta Profit.
Sud Radio, osez investir.
Serge-Henri Saint-Michel, vous êtes sociologue et vous étudiez les comportements des Français dans leur consommation et entre autres en immobilier. Alors aujourd'hui, Serge-Henri, vous allez nous parler du logement idéal suite à la pandémie Covid-19.
C'était avant, le confinement était un espace clos et heureusement, les Français coincés chez eux disposaient de quelques échappatoires et de quelques rêves, comme de pouvoir penser à leur vie d'après, dans un autre, avec des guillemets, dans un autre logement. Alors, il y a eu une kyrielle d'études qui ont été réalisées depuis l'an dernier, avant le départ de Thomas Pesquet, c'est important, qui permettent de tracer le profil du logement idéal post-Covid, qui s'articule autour de la recherche de l'espace.
Forcément.
Alors, le Français recherche plus d'espace, avec une pièce en plus pour disposer d'une chambre pour chaque enfant, une pièce en plus pour installer un coin bureau, plus d'espace pour du rangement, et il aimerait, surtout s'il est jeune, même plus de cuisine ouverte.
Alors, le français est-il aussi attiré par les espaces extérieurs ?
Ah oui, bien sûr, avec des espaces comme une terrasse, un balcon, un jardin. Mais en fait, cette conception du logement idéal ne déménage pas, si vous me permettez cette expression, Thomas. Merci, parce que 75% des Français sont satisfaits de leur logement. Et à l'issue du confinement, 20% auraient l'intention de déménager. Et rappelons que chaque année, 16% des Français déménagent. L'impact donc du confinement sur la mobilité immobilière est plutôt faible. Alors en attendant de pouvoir accéder à l'idéal, le Français bricole, aménage ses espaces, abat des cloisons, construit des placards, ouvre sa cuisine, va chercher la lumière et guette le logement de ses rêves. Car oui, il est là, au bout du tunnel.
Merci Serge-Henri.
ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio, osez investir, Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, promoteur immobilier dans le neuf. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Blois, une ville de 46 000 habitants dans la région Centre-Val-de-Loire.
Bonjour Norbert Fanchon.
Bonjour Thomas.
Comment se porte le marché du neuf sur Blois et à quelle est sa tendance actuelle, Norbert ?
Bien, le marché du neuf à Blois est un marché confidentiel, puisqu'en général, c'est 50 à 100 ventes par an, mais c'est conforme à une ville de 46 000 habitants, parce que c'est une démographie plutôt raisonnable et un marché de l'ancien relativement dynamique, qui fait que le neuf ne se développe pas aujourd'hui comme il se développe dans la plupart des métropoles en France.
Alors, si je vais au-delà de la situation de chacun, vers quel type de placement devrais-je m'orienter si je voulais aller sur votre ville ?
Eh bien, en continuité avec l'intervenant précédent, il faut se placer à Blois, comme dans beaucoup de villes en France, des villes de 50 000 habitants, 70 000 habitants, dans un immobilier post-Covid et imaginer une transhumance des Français, des métropoles vers ces villes moyennes et donc suivre avec beaucoup d'attention le marché du neuf et de l'ancien à Blois. Et en neuf, effectivement, ça sera important d'avoir des espaces extérieurs, peut-être des jardins, et puis aller chercher l'exposition, le sud et l'ouest, plutôt que le nord et l'est, parce qu'on va chercher la lumière. Je suis en phase totale avec l'intervenant précédent.
Merci Norbert Fanchon.
Restez avec nous, on revient dans un instant dans Osez Investir le Club avec Bernard Darniche, pilote français de rallye automobile, pour parler de sa carrière et d'investissement.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.
Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Bernard Darniche, pilote français de rallye automobile. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément tout terrain.
Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
Oui, chers auditeurs, comment débuter le portrait inattendu de Bernard Darniche autrement qu'avec le générique de K2000, cette célèbre série des années 80. Vous, le chevalier, pas solitaire, mais dans un monde pas moins dangereux que celui des rallyes automobiles. Mais quel plaisir de vous recevoir, Bernard Darniche, vous qui êtes né un 28 mars, qui est considéré dans le calendrier républicain comme le jour de la jonquille. Mais sincèrement, cela aurait dû être baptisé le jour de la luge. Votre surnom sur les circuits automobiles en raison de votre capacité au bord de votre monture de glisser sur terre, neige ou sable. Vous engagez dans la compétition automobile en 1965 comme copilote, mais au moment où certains découvrent sous les pavés la plage, vous démarrerez sur les chapeaux de roue votre carrière de pilote sur les mêmes pavés en 68. À compter de cette date, vous appuierez sur le champignon jusqu'en 1984, date à laquelle vous déciderez de rentrer définitivement au stand. Durant ces 16 années de carrière, vous additionnerez les succès et les titres. Parmi les plus significatifs, on pourra retenir les 3 titres de champion de France et les 2 de champion d'Europe. 1976 ne fut d'ailleurs pas qu'une année de canicule, oui, car ce fut cette même année que vous cumulerez les titres de champion de France et d'Europe. Vous détenez également le record de victoires lors du Tour de Corse avec 6 titres, c'est sans oublier vos participations aux 24 heures du Mans et au Paris-Dakar. Mais là où vous mettrez la gomme pour prendre la corde sans péter une durite ni faire des tonneaux, ou là où vous roulerez en dehors des clous, mais sans pneus à clous, ce fut durant la 47e édition du Rallye de Monte-Carlo en 1979 que vous gagnerez de haute lutte alors que vous étiez 6e au classement pour l'emporter finalement avec 6 secondes d'avance sur Val-de-Garde. Depuis que vous vous êtes rangé des voitures, vous vous êtes impliqué en faveur de la sécurité routière et de la mobilité sereine et durable. Et dans le même temps, vous deviendrez chroniqueur sur France Inter, puis France Bleu, démontrant que vous en avez sous le capot. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de confier le volant, c'est beaucoup plus prudent, à Bernard Darniche pour une interview en échappement libre, comme sa parole. Bonjour Bernard Darniche.
Bonjour Thomas, bonjour Philippe et bonjour à tous. Magnifique portrait.
Merci à vous.
Ah,
merci.
Il a mis le turbo. Hein.
J'ai mis le turbo.
Magnifique.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Bernard, vous avez connu de nombreux succès. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de cette carrière ?
Le meilleur souvenir que je garde de ma carrière, c'est d'avoir abandonné, sans regret, mon métier d'ajusteur dans une usine à Corbeil-Essonne.
Oui, parce que
c'est mon meilleur souvenir.
Oui, parce que c'est vous partez de là, en fait.
Voilà. J'étais ajusteur dans une usine et je n'avais pas d'autre horizon que de rester dans cette usine. J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Michel Loiseau, qui était en panne en forêt de Fontainebleau. Je l'ai dépanné, pris en stop, et c'était un rallyman connu. De fil en aiguille, je suis devenu son coéquipier occasionnel, son coéquipier attitré. Un jour, il a voulu me faire conduire et je me suis mis à gagner course sur course sans comprendre ce qui m'arrivait d'ailleurs.
Donc heureusement que vous n'êtes pas trompé de route ce jour-là.
Hein, non, pas du tout.
Parce que ça aurait changé votre destinée. Oui. Je vais vous citer Bernard Darniche. On est arrivé sans argent dans ce monde-là. Où on gagne, où on meurt. Vivre d'abord et penser à mourir après. Ce sont vos principes de vie de coureur. Pensez-vous que la génération actuelle de coureurs partage ses idées et ses valeurs ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non. Ils sont dans une autre logique. Moi, j'ai eu des conversations avec des pilotes. Rouler la nuit, les hélicoptères ne peuvent pas décoller s'ils ont un accident, ils ne peuvent pas être soignés. Enfin, on est dans une autre sphère, dans une autre logique. Nous, c'était l'usine. J'en ai parlé avec Alain Prost de ça. C'était l'usine, c'est-à-dire la vie de tout le monde. Mmh. Elle est pas désagréable, mais on peut espérer mieux. Quoi.
Oui, parce que vous citez Alain Prost à l'instant, vous avez eu cette discussion avec Alain Prost relative à son fils.
Et sur un vélo, tout à fait, voilà. Sur un vélo.
Et il dit quoi, Alain Prost, de son fils ?
Alain, il me disait, de toute façon, c'est un financier de très haut niveau, au niveau international. Le jour où ça devient un peu compliqué au volant d'une voiture, il sait qu'il a autre chose. Nous, on était le nez devant le ravin. Nous, c'était on gagne ou on meurt.
C'est ça.
On n'avait pas d'autre alternative.
C'était vrai dans beaucoup de situations, pas que
dans
votre métier.
Exactement, mais non.
C'était une époque. Hein.
Les boxeurs, enfin tous les sportifs de haut niveau, à un moment, sont confrontés à ce choix. D'ailleurs, qui n'est pas un choix. C'est viscéral, on ne comprend pas ce qu'on fait, mais on le fait.
Bernard, je vais vous poser une question. C'est plutôt un sujet qu'on évoque chez Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Est-ce que pilote de rallye, ce n'est pas un ménage à trois ? Le pilote, le copilote et la voiture ?
C'est un ménage à une dizaine. Vous savez, l'équipe rapprochée d'un pilote de rallye. Un pilote de rallye, c'est des ingénieurs et puis 10 mécaniciens. Enfin, c'est une équipe de 10, en gros, où on est tous amoureux les uns des autres, où on ne gagne pas. Si on n'est pas amoureux les uns des autres, on ne gagne pas. Voilà, c'est le secret d'une équipe. Elle réside là, quoi. C'est un travail d'équipe, un travail... Une obsession. Quand j'ai commencé à faire ce métier, je pensais que l'année d'après, après mon premier contrat de pilote professionnel, en 68, j'ai signé avec NSU, fin d'année, ma fille venait de naître, à 3 jours près j'arrêtais tout, parce que ma fille venant de naître, j'étais obligé de rester à l'usine pour subvenir à ses besoins. Je me suis dit, ça va durer un an. C'est un métier aléatoire. Alors ça va durer un an, parce que je ne serai pas suffisamment bon, parce que je vais me virer, parce que je vais me blesser, parce que ça ne va pas durer plus d'un an. Voilà. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, le peu d'argent que je gagne, il faut que j'investisse, il faut que je prévoie l'avenir.
Alors, justement, pardon, je vous interromps, mais qu'avez-vous fait avec vos premiers gains de coureur? Immobilier, placement financier, c'était quoi l'idée?
Mais mon premier investissement, et j'en suis très très fier aujourd'hui, ça a été de m'associer avec quelqu'un qui m'a mis des cheveux.
Erskine.
Parce que j'étais chauve. Et comme j'étais le seul chauve dans le monde de la compétition automobile, je savais qu'un jour, mon crâne chauve allait intéresser quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Jean-Claude Saint-Thier. On a créé la marque Erskine. Vous vous rendez compte, ça, il y a 40 ans quand même.
Je me souviens.
Et cette marque, on l'a mis en sommeil parce que ce malheureux garçon nous a quittés. Donc j'avais mon métier de pilote, je ne pouvais pas. Mais on l'a fait renaître maintenant, il y a 5 ou 6 ans, avec mon associé actuel. On est 2 associés, et pas des moindres. Je cite en premier mon associé, qui est une jeune femme, qui s'appelle Camilla Carbastar. Et mon troisième associé, c'est juste Franck Provost, quoi. Qui a pris la décision de ne plus s'occuper que des gens qui ont des cheveux, mais des gens qui n'en ont pas ou qui vont les perdre ou qui se posent des questions sur leur avenir capillaire.
Alors vous avez ramené l'argent en fait, hein. Vous avez relancé quelque chose, vous avez lancé une épopée.
Je suis toujours dans le même principe.
Oui.
Je ne fais pas de publicité si je ne m'implique pas moi-même et si ce n'est pas plus de l'information que de la publicité.
Bernard Darniche, vous avez fait un métier très dangereux. Vous le savez, vous en êtes bien conscient.
Non, j'en ai jamais eu.
Non, vous n'étiez pas conscient de ça.
Je ne veux pas m'empêcher de vivre parce que j'ai peur de mourir. Tout est résumé là.
Mais il ne retire pas moins que moi j'ai une question à vous poser par rapport à cette dangerosité. Comment avez-vous fait pour mettre vos proches à l'abri? Parce que vous êtes dans Oser Investir, pardon de vous ramener à ça.
Oui.
Et c'est aussi de la prévoyance, l'argent.
C'est de la prévoyance. Et puis, vous savez, quand on a cette espèce de préoccupation, mais forcenée, de conserver, d'essayer de faire fructifier le peu d'argent qu'on gagne, parce qu'à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai fait des conneries parce que j'ai voulu monter. Mmh. Parce que pour moi, la valeur travail, la valeur argent, c'est la valeur travail. On travaille, on gagne de l'argent. J'étais pas dans cette logique de placer, de faire travailler de l'argent. J'étais pas dans cette logique.
Ouais.
Je le suis aujourd'hui. J'ai fait la connaissance avec une jeune femme qui s'occupe de ses investissements, qui s'appelle Christelle Dupuis, la maison de l'investisseur, qui maintenant m'a amené à comprendre que finalement, on pouvait aussi gagner de l'argent sans travailler avec des investissements de l'optimisation fiscale intelligente. Et Dieu merci, parce que j'ai mis du temps à comprendre ça.
Ouais.
Je m'étais mis dans les mains de partenaires industriels, commerciaux, etc., dans certains domaines, qui m'ont plumé dans tous les sens, comme dans beaucoup de sports.
Vous vous êtes engagé pour la sécurité routière, vous avez fait de la radio, comme j'ai évoqué dans votre portrait, vous êtes un homme libre avec une parole authentique, ça tout le monde pourra en témoigner, vous vous plaignez du millefeuille administratif, incompréhensible et indigeste, je vous cite, vous dites même qu'on vit dans une caserne, alors moi je vous posais une question simple, pourquoi ne pas avoir fait de politique, pourquoi n'avoir jamais été par exemple ministre des Transports, je suis sûr qu'on vous l'a proposé.
Jacques Chirac m'a proposé d'entrer en politique en même temps que Guy Druyt et Henri Boério, et j'ai répondu à cet homme magnifique sur le plan humain, je ne parle pas de ses actions politiques, parce qu'on peut reconnaître un homme pour ce qu'il est et non pas ses actions politiques, et je fais bien la différence. Je lui ai dit, monsieur, vous rendez compte de la responsabilité que vous voulez me confier? Moi, je sais qui je suis. Si vous me confiez des responsabilités pour les millions de Français, je ne suis pas d'accord, je ne serai pas capable. Non seulement je ne serai pas capable, mais je ne serai pas capable de dire ce qu'on me demande de dire. Je ne peux dire que ce que je pense et où sont mes convictions profondes. Et là, il a éclaté de rire en me disant, mais Bernard, la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est être un groupe et essayer de faire avancer les choses à la juste mesure, mais sans se préoccuper beaucoup du reste. Et j'ai bien fait de ne pas entrer en politique, parce que je pense que je n'étais pas fait pour ça.
Alors, comme le veut la tradition dans Oser Investir, Bernard Darniche, vous avez retenu un artiste pour terminer notre rencontre de ce matin.
Oui, il s'agit de Daniel Balavoine et de l'Aziza, composé en 1985. Quelques semaines plus tard, en janvier 86, il disparaîtra dans un accident d'hélicoptère avec Thierry Sabine, l'organisateur du Paris-Dakar.
Alors, je vais faire rentrer nos auditeurs dans la confidence de la construction de cette émission. Vous m'avez proposé Daniel Balavoine, vous ne m'avez pas proposé le titre. C'est moi qui ai choisi l'Aziza parce que justement, j'ai voulu le ramener. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix ou si c'est celui que vous auriez fait, mais j'ai voulu le ramener par rapport au moment où, évidemment, Daniel Balavoine va disparaître dans cet affreux accident d'hélicoptère. Alors, on a cité, Philippe vient de citer également Thierry Sabine. Il n'y avait pas que lui, il y avait Bernard Giroud.
Et Nathalie Audan.
Voilà, exactement.
Bernard Giroud, qui était un de mes coéquipiers aussi.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai choisi parce que c'était le Dakar, si vous le permettez. Est-ce que c'est pour ça que vous l'auriez choisi,
Daniel Balavoine ? Oui, tout à fait. Peut-être que... ça a été un traumatisme terrifiant de perdre... Oui. un ami, Daniel. Hein, vraiment un ami. Mais un ami intellectuellement où nous avions beaucoup, beaucoup de points communs. Et je pense que s'il était resté en vie, nous aurions fait de la politique tous les deux. Mais de la politique à notre façon. On avait ce projet. Et je me rappellerai toute ma vie de l'endroit où j'ai appris par la radio qu'il était mort. J'étais place de la Concorde. Je suis resté tétanisé. Ce sont les klaxonne des voitures autour qui m'ont ramené à la vie. Je ne savais plus comment je m'appelais. Parce que si j'avais été sur le Dakar, il ne serait pas mort. Je lui aurais interdit de monter dans ce putain d'hélicoptère.
Sacrée année 86, hein, parce que ce n'est pas les seuls morts.
Oui, il y a eu Coluche et Le Luron également.
Ouais. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir, Bernard Darniche, ce dimanche matin.
C'était le 89e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'application Sud Radio, mais bien évidemment sur l'ensemble des dispositifs digitaux d'Oser Investir. Merci de votre fidélité.
Et à dimanche
prochain.
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, le club, 9h30-10h. Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.